C'est notre rendez-vous avec Émile Proulx-Cloutier. Émile, bonjour.
Bonjour.
Peut-être un mot sur cette lettre ouverte, en fait, ce document signé par 11 000 scientifiques.
Eh oui, une lettre ouverte hier. 11 000 scientifiques du monde entier, donc, qui signent une lettre ouverte qui dit en substance ceci. Nous déclarons clairement et sans équivoque que la planète Terre est confrontée à une urgence climatique. Donc, ça a été publié hier dans la revue Bioscience. La lettre comprend donc 11 258 signatures de 153 pays, dont 409 scientifiques du Canada. Le rapport dit « La crise climatique est étroitement liée à la consommation excessive issue d'un mode de vie riche. Nous devons changer notre façon de vivre. » Je poursuis la citation. « L'extraction excessive de matériaux, la surexploitation des écosystèmes entraînée par la croissance économique doivent être rapidement réduites. Nous devons protéger et restaurer les écosystèmes de la Terre. » Donc, dans un article de la presse canadienne qui résume un peu cette lettre-là, les deux liens seront sur notre Facebook à nous. Donc, les investigateurs de la lettre veulent sortir de leur tour d'ivoire, qui disent, nos recherches sont financées par des fonds publics, le public a le droit de savoir ce qu'on trouve, et souvent, bon, on est tellement comme confiné une espèce de réserve, là, ils disent, là, on se permet un changement de ton, on se permet de d'être un peu plus franc, un peu plus direct dans ce qu'on dit, parce qu'on a l'impression que les pouvoirs réagissent pas en conséquence. La lettre comprend 29 graphiques assez simples, mais qui illustrent donc tout, là, de la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre, des données sur le bétail, des données sur les phénomènes météorologiques extrêmes, les pertes dues aux incendies de forêt, etc. Donc, vous pourrez aller la lire, la consulter. C'est que, tu sais, dans les derniers mois, il y avait souvent des gens, notamment lors du passage de Greta Thunberg ici, qui disaient, écoutez, là, elle connaît rien là-dedans, elle, on peut-tu entendre des spécialistes? Ben, il y en a 11 000 qui hausse le ton, un peu comme elle le faisait. Mais je vais vous parler d'un bouquin aujourd'hui.
Vas-y.
C'est un livre dont le lancement a lieu ce soir. C'est un livre de Laure Varidel. Le bouquin s'appelle « La transition, c'est maintenant ». C'est aux éditions Éco-Société. Laure Varidel, donc, on la connaît, c'est sociologue spécialisée en développement international et en environnement. Elle a cofondé Équiterre, c'est une écrivaine, communicatrice de radio-télé. Et elle a sillonné le Québec pendant plusieurs mois. Elle a réalisé plus de 150 entrevues. Elle a soumis un questionnaire à plus de 2500 personnes et entreprises, organismes, tout ça. Et elle voulait voir un peu quel en est l'état au Québec de cette fameuse transition écologique, cette transition énergétique qu'il faut opérer. Quelles sont les solutions qui émanent un peu partout? Qu'est-ce qui pousse certaines entreprises à opter pour des comportements éco-responsables? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui freine aussi cette transition-là? Alors, c'est un livre très documenté, qui est truffé de références, qui est très accessible, par contre. C'est pas une langue d'expert, là, c'est vraiment franc. Moi, j'ai pas tant d'études là-dedans, puis j'ai tout compris. Mais je me dis, ça peut être excellent, notamment, bon, d'abord pour...
Mais elle trouve quoi? C'est quoi son constat, tu penses?
C'est qu'elle passe à travers les divers secteurs, donc autant les investissements, notre rapport à la consommation, donc aux déchets, le système agroalimentaire, l'aménagement du territoire, notre rapport aux lois aussi. Puis c'est comme si elle creuse dans chacun des chapitres. Elle expose la situation, elle dit en quoi il y a des effets pervers. Elle expose notre façon de regarder, en fait, le monde. Il y a des références historiques là-dedans. Puis elle pointe aussi certaines initiatives qui sont porteuses d'espoir. En fait, c'est comme si ça nous aide d'avoir un portrait clair, à faire le foyer avec nos lunettes. Ah, OK. Voici comment on a toujours fonctionné en agriculture, par exemple. Et voici les effets pervers de ce système-là. Voici ceux qui optent pour des modes de production différents. Puis là, c'est comme si ça montre un peu où c'est qu'on en est et la voie à suivre. Moi, je me dis, tu sais, mettons que ce serait un bon livre à offrir, à votre ado là, qui est au secondaire puis veut faire un exposé oral là-dessus. Mm-hmm. Il y a une mine de sujets là-dedans. Puis je me dis, Noël approche, il va y avoir des discussions forcément là-dessus dans les soupers de famille. Puis si on veut sortir un peu du débat, Greta Thunberg, bloquer des ponts, c'est-tu bien, ça, mais juste parler en substance de c'est quoi, là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est à notre portée, c'est un bon bouquin pour fourbir son sac d'arguments, pour s'ostiner avec du monde, en fait, si vous voulez vous ostiner. Moi, j'ai appris plein d'affaires, pour vrai. Notamment, il y a un truc que je savais pas. Lorsqu'on calcule le PIB d'un pays, évidemment, on inclut là-dedans les dépenses ou les investissements privés, mais aussi publics. Et on arrive à des espèces de paradoxes, comme par exemple, si on veut décontaminer un lac ou une rivière, ben c'est de l'argent public qui est dépensé pour faire ça. Fait que ça compte dans le PIB. Mais un lac propre, mettons qu'il n'y a pas eu de problème, là, c'est une richesse en soi, mais cette richesse-là, souvent, on la calcule pas.
On lui donne pas de valeur.
On lui accorde pas de valeur. On accorde la valeur au fait que, on s'en est occupé lorsqu'il était sale, on l'a nettoyé, mais ce qu'on a de beau, de sain, de fonctionnel, on parlait de la valeur du travail des arbres quelques semaines, dans notre façon de calculer ce que nous possédons, de ce que nous avons, la valeur des choses, la valeur des sites, des lieux, des ressources, c'est comme si ce qui est en santé, ce qui est sain, on commence à le considérer juste au moment où ça ne l'est plus et qu'il faut le réparer. Il y a un truc aussi que moi, j'avais jamais vraiment bien compris, mais là, la lecture du bouquin, c'est devenu vraiment clair, c'est les effets pervers de la monoculture. Dans l'agriculture, par exemple, si on dit OK, ça c'est une sorte de technique qui est pour la production industrielle, qui rapporte, bon, qui est très utile parce que pour la productivité à court terme, ça fait que OK, ben là, on plante une seule espèce de maïs ou de soya là, sur des centaines d'hectares, puis ça peut être même plus dans certains pays. Les effets pervers que ça a, c'est-à-dire que ça rend le terrain hyper vulnérable donc aux ravageurs, aux insectes, ce qui fait qu'on a recours à des pesticides dont on connaît les conséquences parfois néfastes sur la santé des agriculteurs eux-mêmes. Elle dit, de plus en plus, il y a des agriculteurs qui optent pour un mode d'agriculture diversifiée tranquillement, puis là, l'agriculture biologique, mais aussi le fait de vraiment faire pousser différentes affaires, faire des rotations de culture pour donner du repos au sol. Et là, il y a vraiment un graphique, un espèce de dessin super clair là, dans le livre qui nous montre, quand on passe d'une monoculture à une agriculture diversifiée, à carrément même une agriculture régénératrice, c'est-à-dire qui pourrait même capter du carbone. Là, tu vois qu'est-ce qui se passe en surface au niveau des techniques, au niveau de ce qui est planté, puis tu vois dans le sol aussi l'impact que ça a. Et là, enfin, là, pour un cerveau comme le mien, ça fait « OK, je comprends la différence ». Et elle donne évidemment l'exemple de certains producteurs ici qui optent pour ces techniques-là. Un autre truc que j'avais jamais... un lieu commun que j'entends souvent puis qui est démonté dans le livre par rapport au transport public, le transport en commun. On dit souvent « Ah oui, mais nous, on est en Amérique ici, c'est grand, c'est pas comme en Europe où le territoire fait que c'est normal qu'ils aient un système de train ou de transport en commun beaucoup plus développé. » Et là, ben elle prend ça dans un autre sens puis elle dit ben, « Si on regarde, mettons, la population du Québec, la moitié de la population du Québec habite dans les 82 municipalités qui composent la communauté métropolitaine de Montréal. » Donc, si je regarde ça, là, puis ça devient une espèce de pays, là, puis je regarde la densité de population de la communauté métropolitaine de Montréal, elle dit que c'est une densité de population qui est nettement plus élevée que de nombreux pays d'Europe, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, la Belgique. Et elle dit « Comment ça se fait que l'offre de transport en commun est beaucoup plus attrayante là-bas qu'ici. » Alors que notamment, nous, on en fait des trains, puis on en fait des autobus. On ne fabrique pas de chars, mais on fabrique des trains, des autobus. On est experts là-dedans, mais on les vend là-bas. Et elle démontre avec des arguments économiques à quel point la production, donc l'installation d'un réseau de transport en commun est bénéfique au niveau de l'emploi lors de la production, mais au niveau de l'exploitation de ce système-là, les investissements rapportent, créent énormément d'emplois. C'est un livre qui est très bien fait, qui est franchement clair. Je vous rappelle le titre, c'est « La transition, c'est maintenant » de Laure Varidel. Et elle nous démontre entre autres comment les coûts environnementaux, les coûts sociaux, à quel point les dommages que la production de certains produits génère, comment ces coûts-là ne font pas partie du prix du produit. Puis elle dit, il faudrait que ça fasse partie du produit qu'on achète. S'il est dommageable pour l'environnement, si l'entreprise a des pratiques qui sont douteuses sur le plan de l'environnement, ça devrait faire partie du coût du produit. Et à l'inverse, ça devrait être nettement moins cher d'opter pour des options qui sont plus saines pour l'environnement, ça devrait être facile et agréable pour les entreprises d'opter pour ces pratiques-là. Et elle dit, ben ça, c'est surtout les lois qui peuvent établir ça. Donc, elle en appelle aux dirigeants. Puis elle dit, les solutions sont là. Ce qui manque, c'est une volonté politique. Très bon bouquin.
Merci, Émile. À la semaine prochaine.
Salut.
9h10.